Avant de commencer directement sur Gilardi, je voudrais juste revenir sur la notion d'arte povera assez rapidement. Parce que c'est une notion qui a été créée en 1967 par un critique d'art et un commissaire d'exposition italien qui s'appelle Germano Celan, à l'occasion d'une exposition qu'il avait montrée à Gênes, donc en Italie. Et ce n'est pas un mouvement à proprement dit, mais plutôt une tendance constituée d'un ensemble d'artistes italiens conceptuel plutôt, et défiant la société de consommation, comme on l'a vu déjà avec Pistoletto, puisqu'il y a une douzaine d'artistes qui sont traditionnellement rattachés à ce mouvement, dont parmi les plus connus, effectivement Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Pennone, mais aussi, par exemple, Kunelis ou Mario Merz. Voilà. Et le terme, pour dire à quel point c'est pas une évidence, c'est que ce terme d'arte povera, en fait, a été un temps dénoncé par Germano Celan lui-même, puisque c'est un terme qui veut fonctionner comme une anti-définition. Donc déjà, on comprend toutes les contradictions que porte l'arte povera et qui ont déjà été esquissées à travers le travail de Pistoletto. Selon Celan, si on veut cerner cette tendance, on pourrait dire que ça concerne l'introduction en fait d'éléments incomposables, je le cite, et d'images perdues, venues du quotidien et de la nature. Et effectivement, on va voir que cette notion de nature est présente dans de nombreuses œuvres qui sont rattachées à l'arte povera. Je voudrais revenir aussi sur le terme pauvre. Le terme pauvre a été emprunté à la pratique du théâtre expérimental. Et ça, c'est très important par rapport à Gilardi, c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus. C'est-à-dire que le terme provient donc du théâtre pauvre de Jerzy Grotowski, qui a écrit un article, effectivement, en 1965, extrêmement important encore aujourd'hui pour les arts vivants et pour les arts plastiques, qui s'appelait « Vers un théâtre pauvre » et qui est devenu en fait très vite une référence, y compris donc pour l'arte povera. Et ce théâtre propose de valoriser le corps de l'acteur et sa relation, très important, sa relation avec le spectateur. Autre élément important, c'est que les décors, tout ce qui est considéré comme accessoires, les lumières, les costumes, etc., sont entendus comme des artifices qui vont venir brouiller, en fait, cette possibilité de toucher le spectateur, de transmettre un aspect sacré de cette relation humaine. C'est un théâtre à vertu thérapeutique, ou en tout cas qui prétend à cela, et en, je cite encore, dévoilant, en privilégiant, pardon, le dévoilement de l'être. Donc, l'arte povera et les artistes qui vont s'inscrire dans cette pensée, qui vont graviter autour, plutôt, vont s'inscrire justement dans cette pensée d'une époque, c'est-à-dire l'utopie contestataire, évidemment, de la fin des années 60, dans lequel Grotowski, évidemment, inscrivait son théâtre pauvre, et dans lequel l'arte povera, c'est ce qui a déjà effectivement été dit aussi, va aussi s'inscrire. Et donc, c'est une pensée contestataire qui va évidemment contester la société, questionner la société de consommation, et aussi qui va s'intéresser à l'évolution des relations inter-individuelles dans cette société qui est de plus en plus cadrée et de plus en plus marquée par la notion de rentabilité. C'est à cette époque-là que la théorie des systèmes émerge. On est en plein dans une période où la relation homme-machine pose question, c'est-à-dire que la machine devient clairement une concurrente pour le savoir-faire humain. Donc, Germano Celan, à l'issue de son exposition de 67, va faire paraître un texte important qui est intitulé « Note pour une guérilla », donc à l'hiver 67. Et dans cet article, il rend compte de sa proximité, évidemment, avec la pensée révolutionnaire marxiste, et ça se lit dès ses premières phrases, qui sont celles-ci, je cite, « L'être humain vient en premier, puis c'est le système. Et c'est comme cela depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, cependant, la société veut fabriquer des êtres humains pré-emballés, prêts pour la consommation. Donc on voit toute cette question-là qui émerge. Et il oppose dans cet article une attitude riche, je cite, versus une recherche pauvre. Donc détachée, en fait, des contingences culturelles et sociales. Et là, on retrouve, hein, évidemment, ça fait écho aux positions de Grotowski, qui est, lui, appelé un acteur totalement dédié à l'incarnation de ce rôle et sans connexion avec la société contemporaine. Et l'artiste guérillero qui est imaginé par Celan dans cet article est un peu dans le même esprit, hein, celui qui porterait finalement la bonne parole, c'est-à-dire une parole simple et dénuée d'artifice. Certains commentateurs donc ont dans cette idée-là, malgré l'absence de définition claire, fait le lien en fait entre le terme de pauvre et évidemment une connotation catholique qu'impliquerait l'idée de renoncement et d'ascèse. Hein, c'est de là que vient aussi cette... Voilà. Donc pour Bazenbrouck, qui est un théoricien de l'art allemand, je le cite, leur force de persuasion, donc là il parle des artistes, hein, de l'arte povera, venait du renoncement, leur puissance de l'ascèse, leur énergie vitale de la pauvreté. À leurs yeux, l'objet le plus banal et le plus insignifiant était source d'inspiration. Ils ont dévoilé le quotidien le plus évident comme un mystère recelant la connaissance et la révélation. Quelle place occupe Gilardi par rapport à cette tendance de l'arte povera? Eh bien, c'est pas si simple, justement. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Parce que si Gilardi est un proche de Pistoletto, c'est un artiste turinois qui a effectivement gravité autour de la sphère arte povera dès ses débuts et dont il est aussi un des initiateurs. Mais en fait, il va très vite s'en écarter. Il va très vite refuser en fait de figer sa pratique derrière cette appellation arte povera. Bon, il faut dire aussi ce qu'il est. Il a très mal vendu ses œuvres arte povera. C'est aussi un élément important parce que l'homme est humain, que les contradictions l'animent en permanence. Donc c'est un théoricien, un militant et un des grands rassembleurs italiens quand même des années 60. Mais si Gilardi est pas du tout un personnage central de l'arte povera, les intentions qui vont animer ce groupe sont aussi les siens. Et on va les retrouver tout au long de sa carrière. Les caractéristiques donc que j'ai évoquées de l'arte povera sont importantes pour comprendre le rapport de Gilardi à la nature, première chose, et aussi l'importance qu'il accorde au lien entre l'œuvre et le spectateur. C'est deux éléments sur lesquels je vais me concentrer ici, en abordant une série importante qui est celle des tapis nature et un projet très important également, mais qui va arriver pour le coup à la fin de sa vie, qui est ce projet de Parco d'Arte Vivente, qui sont en fait ces deux éléments sont viennent ponctuer le début de sa carrière avec les tapis nature. Là, vous voyez la date, hein, début de carrière de Gilardi, et puis le Parco d'Arte Vivente qui va arriver dans les années 2000, donc plutôt en fin de carrière. Et ces deux approches, ces deux travaux, on peut dire, en fait, indique une réflexion sur la notion d'écologie. L'écologie désigne l'étude, si vous voulez, des relations entre les êtres vivants eux-mêmes, mais aussi entre les êtres vivants et leur milieu. Et donc, ça implique deux choses pour Gilardi. Ça veut dire que d'un côté, il va s'interroger sur la notion de nature, et de l'autre, il va s'interroger sur cette relation, ces échanges des êtres humains entre eux et avec leur environnement. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ces tapis nature et de l'idée de nature dans ces tapis nature. La préoccupation du rapport entre nature et artifice chez Gilardi est présente très tôt. Il faut savoir qu'il a commencé cette série-là quand il avait une vingtaine d'années. Hein, c'est quand même... Et il va produire en masse, c'est-à-dire que entre 1965 et 1968, puisque 65, c'est à peu près, on ne sait pas s'il a commencé en 64 ou en 65, Mais c'est la période de, où il a en gros commencé à produire ses tapis nature. Il va en produire 150. Et en fait, ça va devenir vraiment sa signature. La signature de Piero Gilardi, c'est essentiellement ses tapis nature, en tout cas dans les années 60. Et même encore aujourd'hui. Donc, les tapis nature, je l'ai indiqué dans le cartel que vous avez sous les yeux, sont constitués de mousse de polyuréthane expansée, donc une matière qui est utilisée plutôt pour les éponges, mais qui n'est pas un matériau artistique au départ. Je vais citer Gilardi à propos de cette idée-là de tapis nature. Il a dit « Le premier était un tapis de cailloux, comme un tapis de salle de bain. Tout a commencé en me promenant, près d'une rivière à Turin. J'y ai vu des galets envahis de déchets, de plastique. Alors je me suis dit qu'il fallait que je prépare un petit morceau de rivière avec ses galets propres et confortables. » Donc la préoccupation, on le voit, écologiste était déjà là, mais en même temps, l'utilisation du pétrole, hein, puisque la mousse de polyuréthane est à base de pétrole, est utilisée par contradiction, justement, pour souligner, non sans ironie, la pollution latente de la nature. Un autre élément sur ces tapis nature qui est important, c'est l'échelle. C'est-à-dire que dans cette série-là, et toujours hein, ce questionnement sur la nature, Gilardi va faire attention à travailler sur des échelles réelles. Hein. Par exemple, on va avoir certains tapis nature qui vont atteindre 5-6 mètres, comme on le voit par exemple ici. Et là, pour ça, il va concevoir un dispositif qui est un espèce d'enrouloir, comme ça, de grand présentoir. Et cette façon de présenter les tapis va suggérer une forme sans fin, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que s'arrête ce tapis exactement, puisqu'elle disparaît avec l'enroulement, mais aussi l'échelle industrielle. L'échelle industrielle va tout de suite, plus évidemment encore que dans ces petits formats, même si elle est là à travers l'utilisation de la mousse expansée, hein, je l'ai dit, mais là, à travers cette idée d'enroulement, il va faire écho à un artiste italien qui s'appelle Giuseppe Pino Galizio, qui va, en 57, concevoir ce qu'il appelle la peinture industrielle. Et là, il va vendre ses peintures au maître. Donc on le voit ici, le maître Pino Galizio, en train de découper ses peintures au maître en fonction de la demande, toujours avec cette ironie, hein, bien sûr, et cette réflexion sur la société de consommation. Mais donc là, on retrouve chez Gilardi cette confrontation entre la nature et la société industrielle, élément qu'on retrouve dans le titre, évidemment, « Tapis nature ». Et de plus, donc après la question du matériau, la question de l'échelle, on va avoir la question de la présentation des tapis nature qui va se poser. Les tapis nature ne sont ni des tableaux, parce qu'ils ne s'accrochent pas au mur. Hein. D'ailleurs, la photographie vous permet de le voir tout de suite, puisque si vous regardez bien, il n'est pas photographié de face. Hein, on voit l'épaisseur, ce qui est une indication. Ce n'est pas une peinture, mais ce n'est pas non plus une sculpture dans le sens où c'est pas présenté sur un socle. Et en plus, la plupart de ces tapis nature ont soit une forme de tableau, soit une forme improbable de tapis, justement. Et en fait, à l'époque, Gilardi préconisait aux spectateurs de faire ce qu'ils voulaient de ces tapis nature. Il disait, je le cite, « Découpez-les en carrés. Posez-les sur des présentoirs de marbre poli. Installez-les sous vitrine. Demandez à votre tailleur d'en faire un smoking. Ou bien, emportez-les à la campagne pour un pique-nique garanti sans fourmis. » Donc, on voit que, effectivement, on touche là, de façon indirecte, à une autre dimension importante dans le travail de Gilardi, qui est cette relation entre l'œuvre et son environnement. Et la question de la présentation, hein, c'est ça. Hein, la façon dont vous présentez une œuvre dans un musée va forcément changer la façon dont le public va interagir avec l'œuvre. Donc les tapis nature soulèvent une question strictement formelle sur la présentation de l'œuvre et aussi sur la représentation qu'on se fait d'une œuvre. Et cette interrogation sur le mode de présentation souligne une envie de perturber les codes établis, ce qui correspond bien à l'ambiance de l'époque, évidemment, et de poser à nouveau cette question donc de relation entre l'œuvre et son public. Et à ce propos, l'historienne de l'art Rosalind Krauss, dans un ouvrage de 1977 consacré à la sculpture, revient justement sur le rôle du piédestal dans la sculpture. Je la cite, elle dit « Là où le piédestal met l'objet sculptural entre parenthèses et le coupe de l'espace naturel, le positionnement direct dans un environnement permet d'insister sur l'interpénétration de l'œuvre et de l'espace-monde dont le sens même dépend. » Donc ici, Rosalind Krauss réfère à la tendance nouvelle des artistes des années 60-70 à présenter des sculptures sans socle, à même le sol, par exemple. Et l'enjeu qu'elle souligne, c'est cet enjeu d'échange, cet enjeu de relation au monde dans lequel l'œuvre, en fait, a vocation à s'inscrire. Pour ce qui concerne les tapis nature, en fait, Gilardi explique que leur fonction était surtout d'interagir avec le corps, pour le corps du spectateur. Voilà. Il dit « Mes discussions avec Michelangelo Pistoletto portaient essentiellement sur la manière dont l'art devait sortir du cadre de la représentation esthétique pour entrer directement dans le vécu du spectateur, du visiteur, et donc dialoguer avec son esprit-corps. » Hein, on retrouve un peu aussi la dimension thérapeutique qu'on avait avec Grotowski. Voilà. Il a ensuite, et c'est ça qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez relevé, mais je vous ai montré les mêmes tapis nature, entre guillemets, mais avec des dates différentes. Hein, vous voyez que là, c'est des dates beaucoup plus anciennes. D'ailleurs, celle-ci que je vous montre à l'instant, Spiaggia con Nautilus, dans la collection du FRAC de Caen, et date de 2009, alors que les premières que je vous ai montrées, enfin la première, Sotobosco, c'est 67. Et effectivement, Gilardi va arrêter toute sa production, totalement. Il va se retirer du monde de l'art durant les années 70. Donc, il va faire ces séries-là, il va s'essayer à faire des œuvres pauvres, ça va pas marcher. Il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte, notamment l'appellation Arte Povera qui ne lui convient pas, et il va décider de partir, de se retirer. Et donc, il va revenir dans les années 80 sur la scène artistique et recommencer ces tapis nature qui avaient bien marché dans les années 60. Voilà. Et en plus, c'est un travail qu'il avait complètement rejeté à toute fin des années 60. C'est un travail qu'il rejetait parce que justement, il rentrait dans une logique de commerce. Voilà. Donc, finalement, aujourd'hui, l'artiste revient dessus. Et je le cite. Il dit, je ne méconnais pas ce travail, même dans sa répétition. Certes, lié à la nécessité de financer la recherche onéreuse dans le domaine de l'art néotechnologique, parenthèse, parce que quand il est revenu sur la scène artistique, Gilardi s'est beaucoup intéressé à l'art et aux nouvelles technologies. Hein. Et pour financer la recherche onéreuse dans le domaine de l'art néotechnologique et la construction du Parco d'Arte Vivente, car je pense qu'il contient ce travail de tapis nature, je pense qu'il contient une vérité humaine authentique, un sentiment de nostalgie pour une nature mortifiée et bouleversée par la société industrielle. Donc, on a cette sensibilité écologique qu'évoquait tout à l'heure Brigitte, qui naissait dans les années 60 et qui va évidemment se développer. Donc, ça me permet de faire la transition pour aborder un autre projet qui tient beaucoup à Gilardi, qui est ce projet de Parco d'Arte Vivendi, qui est un champ d'expérimentation pour lui. Mais avant d'y arriver directement, je voudrais expliquer la genèse qui l'a amené à ce projet-là de Parco d'Arte Vivente. Et pour moi, ce moment-là, il se situe dans le moment où il s'est retiré du monde de l'art, c'est-à-dire entre les années 70 et 84, quand il va revenir sur le devant de la scène artistique. Pendant ce moment-là, il n'a pas rien fait, évidemment. Il a en fait travaillé comme intervenant artistique dans le milieu social et psychiatrique, puis comme art-thérapeute à Turin. Et au départ, ces interventions artistiques, il les a faites dans, je le cite, des contextes autres par rapport à notre culture, c'est-à-dire qu'en fait, il a été intervenir, par exemple, au Mexique, dans une favela, dans une réserve indienne aux États-Unis, ou encore dans une tribu africaine au Kenya. Et là, dans ces moments-là, il proposait des expériences théâtrales communautaires qui influent, selon lui, sur l'énergie collective et les interactions collectives au sein du groupe. Donc là, évidemment, on retrouve l'influence de Grotowski, mais aussi bien sûr l'influence d'Augusto Boal sur le théâtre des opprimés, hein, à la même époque. Donc, selon Gilardi, je le cite, ces expériences ont aidé à comprendre le rapport entre l'art et la vie. Loin d'être une fusion ou une confusion, c'est un enchaînement séquentiel dans le courant ininterrompu de l'existence. Donc, il voit vraiment l'art comme inséré complètement dans un mouvement vital, qui intègre évidemment la notion d'échange. Et à ce propos, il parle du caractère relationnel, très important, caractère relationnel de ses expériences artistiques, qui sera ensuite repris par le critique d'art contemporain Nicolas Bourriaud. Mais voilà. Donc son projet d'Arte Vivente montre qu'il est toujours resté attaché à cette question-là de la relation et à l'environnement et au spectateur, puisque pour Gilardi, ce parc, c'est d'abord un lieu de rencontre et d'expérimentation sur un dialogue art et nature, biotechnologie et écologie. Donc là, vous voyez, on est à Turin. C'est un parc qui est en fait situé dans un ancien site industriel et qui a ouvert en 2006. Donc en fait, Gilardi va être le fondateur du parc, mais il n'est pas le directeur effectif du parc, il y a un directeur. Hein. Lui continue d'être très actif au sein du parc, mais voilà, juste pour préciser, c'est pas le directeur. Donc le parc que vous voyez sous vos yeux comprend un espace d'exposition en plein air, qui est en fait le parc, et un musée interactif. Et ce bâtiment, en fait, est situé donc au cœur du parc et suit les principes de l'architecture bioclimatique. Il s'organise autour d'une cour centrale qui est en forme octogonale. Et l'espace extérieur va être conçu, lui, comme un endroit en évolution constante, qui est justement accepte d'être en totale autonomie entre guillemets. Donc en même temps, le parc, ce lieu d'exposition extérieure, va héberger des œuvres qui sont parfois éphémères, parfois pérennes. Et actuellement, il y a une douzaine d'installations in situ qu'on peut voir quand on visite le parc. Je voudrais m'intéresser à deux œuvres, Le Trèfle, de Dominique González Foster, artiste contemporaine qui a eu une exposition récemment au Centre Pompidou, une femme. Et aussi, je voudrais m'intéresser au Jardin Mandala de Gilles Clément, puisque Gilles Clément a été invité aussi à intervenir dans ce parc. Donc, ces deux-là sont pérennes. Le trèfle, en fait, est un trèfle à quatre feuilles qui s'inscrit dans le terrain. En fait, ils ont creusé pour dessiner ce trèfle. Donc, l'œuvre fait partie d'un parcours piéton. Et en fait, la forme, si vous regardez bien la forme, elle renvoie aux églises éthiopiennes de Lalibela qui sont creusées dans le roc. Et en fait, le trèfle à quatre feuilles va évoquer cette forme idéale où en fait les quatre branches de la croix grecque que forme évidemment le plan de l'église éthiopienne qu'on voit là. Mais Trèfle, c'est aussi un dialogue avec le sous-sol de Turin, puisque ils ont creusé les restes de la ville romaine qui ont émergé, donc ils ont réutilisé des parties, et aussi, très intéressant, pas seulement Turin-Ville romaine, mais aussi Turin-Ville industrielle. Donc tous les déchets aussi industrielles ont été mis à jour. Donc Trèfle est un espace qui est fait pour être exploré. Vous le voyez là. Donc on peut rentrer hein, en descendant le long de la rampe en pierre là. Donc c'est à droite. Et on arrive au niveau d'une tranchée circulaire autour du trèfle. Et là, on marche sur des cailloux qui sont comme sur le lit d'un fleuve. Hein. Ou bien, on peut rentrer par le petit pont. Et là, on rentre directement dans le trèfle. Pourquoi je m'intéresse à cette œuvre-là? Parce que c'est la première commande sur le parc. Et on retrouve certains éléments intéressants, dont la référence religieuse, qui est évidemment pas une référence littérale, hein, on est d'accord, mais qui est envisagée en lien avec cette inscription dans la nature. Et par ailleurs, il y a aussi un rappel à l'œuvre de Gilardi, puisque si vous vous souvenez, la première citation que j'ai faite par rapport au tapis nature, il dit « un tapis de galets ». Et là, on retrouve hein, autour cette idée de lit du fleuve. Voilà. Donc, on a le jardin mandala de Gilles Clément. C'est un jardin qui a été créé in situ sur le principe de la symbiose et qui consiste en 1600 plantes qui couvrent 500 mètres carrés à peu près pour former justement un mandala. Donc là, on le voit mieux. Dans cette idée, évidemment, de souligner la délicatesse et l'impermanence de l'existence. À deux endroits, on va trouver des dessins de Gilles Clément qui sont gravés dans du ciment et qui représentent le cycle naturel de la circulation d'énergie végétale pour Clément. Hein. Moi, je suis pas sûre d'y lire ça, mais en tout cas, c'est ce que lui souhaite montrer. Les 9 variétés sélectionnées vont en fait être disposées dans des espèces de petits lits qui sont divisés par des chemins en gravier ou en bois qui permettent donc de circuler comme ça. Et le choix des plantes et du compost a été pensé, évidemment, pour que le jardin s'autorégule seul. Donc là encore, on retrouve des éléments qui sont chers à Gilardi, notamment l'idée d'une circulation d'énergie. Gilardi évoque, par rapport à ce jardin, la nécessité de prendre soin du monde et de nous-mêmes que les artistes actifs au sein du Parco d'Arte Vivente mettent en pratique. Donc le parc est vraiment pensé comme un lieu en constante redéfinition pour être toujours dans l'action. Et l'art, l'éducation, l'auto-organisation se retrouvent et permettent en fait des formes de collaboration qui vont favoriser, selon lui en tout cas, l'imagination et l'émergence de créativité collective. Je voudrais juste évoquer 2 autres interventions. Une d'Emmanuel Louis Grand, évidemment, enfin pour ceux qui sont canais, enfin qui connaissent un petit peu, c'est aussi parce que Emmanuel Louis Grand a été invité par l'UNIC, qui est une association canaise, à intervenir à la Guérinière. Je viens d'apprendre que Gilardi va être montré en avril dans le parc de la Guérinière. Donc, si vous voulez aller voir, hein, c'est accessible à tous. À partir d'avril, il sera montré dans un petit conteneur. Et en fait, la commande de l'UNIC à Gilardi, puisque c'est une commande, c'est justement que Gilardi fasse des tapis de nature à partir du jardin d'Emmanuel Louis Grand. Donc, on voit que le dialogue continue et qu'il continue même à Caen. Donc, c'est incroyable. Et puis, donc ça m'intéressait parce que là encore, c'est un projet participatif. Hein, c'est pour souligner l'importance pour les artistes d'associer les gens. Et là, on le revoit encore ici avec Andrea Caretto et Raffaella Spagna qui ont fait Pédogenesis sur plusieurs années aussi. Donc en associant les gens du quartier avec cette idée de faire du troc. Et en fait, ils ont renversé la serre qui n'est plus utile, mais qui devient juste un lieu de rencontre et de troc de semences, etc. L'architecture du site va aussi renvoyer au motif de la cellule. Et l'édifice qui permet donc d'entrer, hein, c'est l'édifice du musée, a la forme d'une cellule. Et à ce propos, Gilardi fait une comparaison entre le fonctionnement de la cellule, dans lequel la membrane a un rôle clé, hein, et l'organisation du musée. Il explique ainsi que c'est en soi un organisme vivant. Je le cite, il dit « Cette idée de l'interface est très significative, car elle indique que les flux d'informations qui structurent la vie, et donc le processus de coévolution, ne passe pas par un noyau centripète, mais par une frontière osmotique. » Derrière cette réflexion, on a évidemment tout un ensemble de références à la théorie des systèmes de Bertal Amphy de 1968. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Gilardi ne déconnecte pas du tout, et ça c'est extrêmement important, une vision protectrice de la nature de l'utilisation des technologies. Et d'ailleurs, son musée en est l'exemple. Hein, son musée respecte l'écologie grâce aux nouvelles technologies. C'est ce que disait aussi Pistoletto, hein, on l'a vu. Donc il n'oppose pas nature et culture, nature et artifice, nature et technologie. Ça, c'est très important. Et pour Gilardi, le but est d'apporter une réponse, en fait, au déséquilibre écologique. Et il explique la difficulté d'avoir ce type de posture. C'est-à-dire qu'en évoquant à la fois l'aspect conservateur que peut avoir une telle posture, et en même temps l'aspect créatif. Il dit, je le cite, nous devons certainement tout faire sur le plan culturel et politique pour supprimer les facteurs anthropiques du déséquilibre de la biosphère. Mais nous devons affiner, en même temps, nos capacités de survie dans tous les environnements naturels jusqu'à présent considérés comme inhospitaliers, donc les pôles, les fonds sous-marins. Car la pollution et l'exploitation des ressources fossiles ont désormais causé un déséquilibre irréversible dans les terres tempérées. Donc là, évidemment, on retrouve des pensées qui sont proches de Timothy Morton, ou encore de Bruno Latour, ou encore de Michel Serres. Donc là, je conclue rapidement. Pour Gilardi et ses contemporains, donc dans les années 60, 70, et dont on sent la conséquence encore aujourd'hui, il y avait tout un enjeu à remettre en question l'aspect sacré de l'art. Et en fait, je pense que la désacralisation de la notion de nature, qui est également visible à la même période, enfin qui se fait sentir plus fortement à la même période avec la révolution industrielle et technologique, permet de comprendre pourquoi l'art s'est saisi aussi de ces questions écologiques dans cet écho entre deux désacralisations. Mais cette désacralisation n'entraîne pas l'annulation, selon moi, de tout art ou de toute nature, mais invite plutôt à repenser ce qui fonde ces objets conceptuels, ce qui les définit, en fait. Et le parc est offert par Gilardi comme un outil pour mettre en laboratoire ces réflexions contemporaines sur l'écologie et l'art, un outil qui n'est pas seulement pour les artistes ou pour les théoriciens, mais un outil dans lequel ils souhaitent que les gens viennent et s'approprient ces questions-là aussi. Voilà. Donc la proposition de Gilardi est vraiment de remettre l'humain au centre avec son art relationnel, hein, on l'a vu, au lieu de laisser une logique systémique prendre le dessus, reprenant là les idées de l'arte povera. Voilà. Je vous remercie.